Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir la politique étrangère de l'homme qui reçoit Emmanuel Macron depuis lundi, Donald Trump. Populiste, nationaliste, il fait figure d'électron libre, inquiétant avec ses tweets matinaux. Pourtant, il s'implique militairement en Syrie, il a ordonné 2 bombardements sur le régime Assad, il maintient ses troupes en Afghanistan, il s'est rendu en Chine, il pourrait bientôt rencontrer le dictateur nord-coréen, la photo entrerait dans l'histoire. Il est direct, Trump, pas langue de bois, on l'a vu et entendu hier dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, devant un Emmanuel Macron sidéré, Trump a dit face aux micros et caméras à propos de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, c'est un accord dément, ridicule, un désastre. Avec lui, pas de langue de bois. Certains analystes notent, il parle haut et fort, on a le sentiment qu'il renverse la table, mais il laisse toujours une porte ouverte à la négociation. C'est la diplomatie homme d'affaires et cela plaît sans doute à son électorat. La diplomatie Trump peut-elle réussir? On attend vos questions, vos remarques au 01 45 24 7000 et bien sûr sur le site de l'émission franceinter.fr.
Pierre Veille, le téléphone sonne.
Antoine, premier appel, Antoine est à Paris et voulait intervenir et interroger nos invités que je vous présenterai dans quelques secondes. Antoine, bienvenue.
Bonjour, merci de prendre mon appel. J'avais une question. À quoi sert finalement un voyage officiel comme celui d'Emmanuel Macron? Est-ce que Trump va surtout profiter des images diffusées dans le monde entier pour montrer qu'il est respecté et considéré par un pays comme la France?
On va vous répondre, Antoine, avec nous dans ce studio, Thomas Gomard, bonsoir.
Bonsoir.
Historien français des relations internationales, directeur de l'Institut français des relations internationales. Et puis Dominique Moisy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géopolitologue, conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Vous avez publié aux éditions de l'Observatoire « Nouveau déséquilibre du monde ». Et puis avec nous, il va nous rejoindre dans son bureau dans une dizaine de minutes. C'est Grégory Phillips, notre correspondant permanent à Washington. Mais là, il suit le programme d'Emmanuel Macron qui a pris un peu de retard. Alors sur cette visite d'Emmanuel Macron à Washington qui servirait l'image de Donald Trump, Dominique Moisy?
C'est vrai, mais ça sert aussi l'image d'Emmanuel Macron. Sur ce plan-là, on peut dire qu'ils sont gagnant-gagnant. Trump peut dire aux Américains qu'il critique, « Regardez, vous me considérez comme un nul, vulgaire, ignare, mais ce président français, cultivé, philosophe, sophistiqué, il est fier d'être mon ami, il affiche sa complicité avec moi. » Et en même temps, à l'inverse, le président Macron peut parler au nom du monde démocratique classique dans cette tribune extraordinaire qu'est le Congrès des États-Unis.
Thomas Gomard.
Je crois qu'il faut rappeler que c'est une visite d'État et qu'en ce sens, elle a pour objectif de consacrer au fond la relation bilatérale en jouant sur les symboles historiques. Donc ça fait partie, dans la vie diplomatique, d'étapes obligées. François Hollande avait aussi eu sa visite d'État. Et donc, je pense qu'il faut l'interpréter comme une mise en scène de la relation franco-américaine, qui est une relation séculaire, les liens s'établissant au fond dès les deux révolutions, la révolution américaine, la révolution française. Et ces références historiques sont régulièrement mises en scène. On a eu plusieurs exemples là depuis 2 jours. Et c'est en ce sens, à mon avis, qu'il faut interpréter les choses. Et une dimension toujours très importante chez Emmanuel Macron, peut-être plus importante chez lui que chez Donald Trump, donner aux aspects historiques et à la continuité.
On sent que Donald Trump est complètement séduit par Emmanuel Macron. Alors, essayons d'expliquer ce phénomène. Est-ce que Macron a réussi à séduire Donald Trump en pratiquant la flatterie? Parce que Donald Trump, apparemment, il aime bien qu'on le flatte, il aime les grands honneurs. Et c'est vrai qu'il a été reçu magnifiquement le 14 juillet 2017 à Paris. Il a assisté au défilé militaire, dîné à la Tour Eiffel, visite des Invalides. C'est une opération de charme très bien menée et réussie par Emmanuel Macron, Dominique Moisy.
Si on regarde la journée d'hier et la conférence de presse, on a l'impression à un moment donné que le président français se dit « tout ça pour ça ». J'ai offert le 14 juillet toutes les troupes, le défilé, et il me récompense en dénonçant de la manière la plus brutale l'accord sur l'Iran. Donc il y a des limites à la diplomatie, il y a des limites à la flatterie. Maintenant, ce qui est certain, c'est que l'entente presque physique entre les deux hommes est certainement réelle. Ils sont tous les deux sensibles à la flatterie et ils sont tous les deux relativement narcissiques.
Thomas Gomard ?
Alors, je rejoindrai Dominique Poésy sur le narcissisme. Moi, je suis frappé par la théâtralisation, peut-être un peu excessive, de cette rencontre. Je ne sais pas si on est dans un rapport de séduction, on est dans un rapport de force, en réalité, aussi, parce que il y a un certain nombre de différents importants entre la France et les États-Unis. Et je pense que le pari réussi d'Emmanuel Macron a été d'être le premier leader européen à essayer de nouer une relation personnelle avec Donald Trump. Rappelez-vous que dans les premiers mois de la présidence Trump, on s'interrogeait sur sa capacité à rester au pouvoir. Or, il est de plus en plus installé. Et de ce point de vue-là, le pari fait par Emmanuel Macron est un pari réussi. Mais je n'irai pas trop loin dans l'aspect séduction réciproque, parce qu'en même temps, les attitudes hier de Donald Trump peuvent être perçues comme un peu provocatrices. Je ne suis pas certain que toutes les images soient positives pour la popularité d'Emmanuel Macron en France.
Des courriels d'auditeurs, Michel nous écrit, il pratique, Donald Trump, la diplomatie du retrait de l'accord sur le climat, on va retirer nos troupes de Syrie, on se retire de l'accord sur l'Iran. La diplomatie américaine du retrait, finalement, c'est pas nouveau, nous écrit cet auditeur, c'est le bon vieux isolationnisme américain. Est-ce que c'est bien vu, Dominique Moisy ?
Oui et non. Oui, parce qu'il y a une tradition isolationniste américaine et ce que fait Donald Trump s'inscrit dans cette tradition. Mais on est à l'heure de la mondialisation, on est à l'heure où on voit la montée des périls, moins d'Amérique dans le monde aujourd'hui, où une Amérique qui dit l'Amérique d'abord, l'Amérique ensuite, c'est en contradiction totale avec les intérêts de stabilité du monde et sans doute avec les intérêts des États-Unis aussi.
Thomas Gomard,
sur
l'isolationnisme, c'est une tradition dans la politique étrangère
américaine. Oui, moi je parlerais plutôt d'unilatéralisme en fait avec Donald Trump. C'est-à-dire que effectivement, quand on additionne toutes ces décisions importantes depuis janvier 2017. Vous n'avez pas mentionné le retrait qui me semble très important du TPP, c'est-à-dire ce grand accord pacifique qui avait comme objectif d'encadrer la montée en puissance de la Chine. C'est la première décision qu'il prend et à mon avis elle est très lourde de conséquences en termes géoéconomiques. On a effectivement un président qui est dans le coup, dans la succession de coups et on voit mal se dessiner pour l'instant une cohérence dans son action. Et c'est pour ça aussi qu'il génère autant d'incertitudes et que la principale puissance mondiale génère cette incertitude est un problème en particulier pour les Européens.
Des courriels sur le site de l'émission Charlotte à Nice. Ici en France, on considère Trump comme un homme ingérable. Aux États-Unis, il a de nombreux partisans. Il s'apprête à faire une photo avec Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. Est-ce que c'est l'homme fort du moment ? Dominique Moisy ?
Non, c'est l'homme qui sait faire des coups. C'est un homme de communication. Et sur ce plan-là, il a un certain génie. C'est pour ça que le titre de votre émission est troublant. Donald Trump peut-il réussir ? Non. La réponse est clairement non. Mais Donald Trump peut connaître des réussites dans le cadre d'un échec global. Il accompagne, il accélère le déclin de la présence américaine dans le monde.
Thomas Gomard, vous partagez ce point de vue de
Sur les coups, je souscris entièrement. La capacité de Donald Trump, à mon avis, le moment qui va être le moment le plus critique approche, ça va être la décision sur le dossier iranien, parce que c'est celle qui est la plus engageante en termes de conséquences
le 12 mai.
Régionales, absolument, et c'est celle qui peut mettre à mal la cohésion transatlantique ou le lien transatlantique, puisque comme vous le savez, cet accord est défendu par les autres signataires. En ce qui concerne la Corée du Nord, on voit ça comme une prouesse diplomatique. En réalité, c'est un succès pour la diplomatie nord-coréenne qui a réussi à faire accepter au fond son statut nucléaire et qui a utilisé ces tests nucléaires précisément pour entrer en contact direct avec Washington. Mais de là à ce que la Corée du Nord dénucléarise, je pense qu'il y a un pas qui ne sera pas franchi, puisque une fois qu'on a l'arme nucléaire, on veut évidemment la garder.
C'est pas facile de faire des prévisions avec Donald Trump, mais suite à ses déclarations hier avec Emmanuel Macron concernant cet accord sur le nucléaire avec l'Iran, vous imaginez qu'il va déclarer le 12 mai « je déchire cet accord » ou alors il trouvera une sorte de compromis Donald Trump en disant « bon, moi, il ne me plaît pas cet accord, il faut renégocier, il faut de nouvelles clauses, est-ce qu'on peut aller peut-être vers là plutôt qu'un geste brutal, on se retire ». Je sais bien, ce sont des prévisions avec Trump, il faut être prudent, Thomas Gomard.
Moi j'observe, si vous voulez, qu'il s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat sans hésiter, alors même que diverses tentatives diplomatiques s'étaient exprimées pour essayer de le garder à bord. Là, c'est l'espoir, ce que vous décrivez, est l'espoir de la diplomatie française, c'est-à-dire d'une sorte de position intermédiaire qui ferait que le JCPOA serait maintenu ou présenté de manière différente. Les précédents me conduisent plutôt à pencher sur l'option d'un retrait et donc d'une crise transatlantique prévisible sur ce sujet.
Dominique Moïsi.
Tout à fait d'accord. Je crois qu'après le ton du discours de Donald Trump et les nominations qui viennent d'intervenir autour de lui, Mike Pompeo, qui sera sans doute confirmé, John Bolton, conseiller national à la sécurité, deux personnages connus pour leur hostilité viscérale au régime des Mollahs, il paraît presque impensable qu'ils ne se retirent point le 12 mai.
Au standard, Bruno à Strasbourg. Bonsoir Bruno.
Oui, bonjour.
Nos invités vous écoutent.
Merci. En fait, je vous appelais juste pour faire une remarque et une question en même temps. En fait, moi, j'ai entendu un mot qui me plaît bien et qui correspond vraiment à la pensée de Trump, c'est l'isolationnisme. En fait, il l'est vraiment, et je lui trouve un courage et une volonté que je ne retrouve pas dans les démocraties européennes, à savoir la France-Afrique qu'on voit à ce jour d'actualité, donc on l'a dit, sauf qu'on nous fait croire qu'elle n'a plus lieu d'être. Et c'est toute la différence, c'est cette honnêteté de joindre la parole à l'acte qu'on ne retrouve pas, surtout dans la diplomatie française.
Dominique Moïsi.
Je ne suis pas sûr de partager totalement point de vue notre auditeur.
Bruno.
Je crois au contraire qu'il y a chez le président américain des contradictions fondamentales. Il veut, et il le dit de manière répétée, faire en sorte que l'Amérique soit d'abord les intérêts de l'Amérique. Mais aujourd'hui, défendre les intérêts de l'Amérique à fond, ça suppose plus d'Amérique dans le monde. Or, il dit, je veux l'Amérique seule, toute seule, et moins d'Amérique dans le monde. Donc l'Amérique, elle est en réalité laissée aux bonnes volontés des autres.
Question brève d'un auditeur sur le site. Trump, est-ce un idéologue ou un pragmatique, Thomas Gomard?
Ah, c'est un personnage extravagant.
Ouais.
C'est insaisissable. Il y a un noyau rationnel dans son discours. Et puis, il y a effectivement les contradictions, les outrances qui définissent ce personnage. Et je pense que sa base électorale attend qu'il en rajoute, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme, ce qui est très paradoxal quand on connaît son parcours, comme le principal détracteur de l'establishment. Et ça, il se prête très volontiers à ce jeu. Maintenant, en termes de politique étrangère, la politique étrangère implique du temps long, de la constance, des efforts. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que le système construit par les États-Unis après 1945 est très rapidement déconstruit par Donald Trump. Et donc les conséquences, en fait, la question qu'on doit se poser, c'est les conséquences de cette déconstruction à horizon de 2 ou 3 ans.
Pour aller d'un mot, je dirais, c'est un pragmatique, incohérent, imprévisible et passionnel, qui sont 3 adjectifs que l'on n'associe pas d'habitude au mot pragmatique. Oui, ce n'est pas un idéologue, mais c'est un pragmatique dangereux.
Est-ce qu'il connaît notre monde? La question est revenue plusieurs fois sur le site de l'émission. Il connaît la planète, les grands problèmes qui touchent notre planète aujourd'hui, ou c'est un homme qui a quand même très peu de culture diplomatique, Dominique Moïse?
Je crois qu'il a très peu de culture tout court. C'est quelqu'un qui ne lit pas, et c'est quand même important. Il n'a aucune culture diplomatique, mais il fait confiance à son instinct. Qu'il suit son intuition, il se croit irrésistible, ça peut être un atout, cette confiance extraordinaire, ça peut être un péril majeur.
Thomas Gomard.
Il y a un exemple qui date d'hier, qui est significatif de de forme d'ignorance assez profonde, quand il a expliqué qu'il préférerait parler des questions commerciales directement avec Paris plutôt qu'avec l'Union européenne. Or, l'Union européenne a dans ses compétences la politique commerciale. Donc, ça paraît, c'est un bon indicateur, si vous voulez, du niveau de compréhension et du fonctionnement d'un acteur comme l'Union européenne. Il connaît un certain nombre de pays, il connaît visiblement un petit peu la Russie, puisqu'il y a noué un certain nombre de contacts, et que ces contacts expliquent aussi les problèmes qu'il peut rencontrer actuellement.
Donc il ne travaille pas, il ne connaît pas bien ses dossiers. Est-ce qu'on connaît un peu son rythme de travail à la Maison-Blanche, Dominique Moïse?
Je crois qu'aucun président des États-Unis n'a plus joué au golf pendant sa présidence que Donald Trump. Il bat de très loin des présidents pourtant golfeurs réputés comme Gerald Ford et, il y a très longtemps, Dwight Eisenhower.
Thomas Gomard, je rappelle, hein, historien, directeur de l'Institut français des relations internationales, vous évoquiez la Russie. Beaucoup de questions d'auditeurs sur le site concernant la Russie avec les États-Unis. Je lis ce courriel avec les États-Unis. Pourquoi est-ce la guerre froide actuellement alors que les Russes et Poutine ont tout fait pour l'élection de Donald Trump?
Ah, ça c'est une excellente question. D'abord, il y a eu une appréciation de la Russie depuis la chute de l'URSS qu'on pourrait aux États-Unis caractériser de la manière suivante. Les États-Unis, jusqu'en 2008, ont eu une obsession, c'est d'accompagner la montée en puissance de la Chine et d'accompagner le déclin de la Russie. Et c'est une constante, c'est-à-dire qu'au fond, les États-Unis se sont employés à réduire l'influence internationale de Moscou depuis 1991. Et ça s'est notamment exprimé par Barack Obama lorsqu'il a parlé de puissance régionale pour la Russie, ce qui est la plus belle provocation possible faite au Kremlin. Ensuite, vous avez la personnalité de Donald Trump. Je pense que le phénomène Trump s'explique par des causes très profondes dans l'électorat américain, mais il a aussi bénéficié d'une ingérence de la Russie, qui est aujourd'hui documentée. Et en même temps, l'appareil étatique américain est assez façonné dans sa composition, dans son histoire, dans un rapport antagoniste à la Russie. Et donc on est dans une situation très 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 paradoxale, parce que le président américain a annoncé sa volonté d'établir un rapport direct avec Vladimir Poutine. Au fond, il voulait faire ce qu'avait fait Kissinger avec la Chine au début des années 70, avec la Russie 47 ans plus tard. Et en fait, c'est pas possible, parce que l'attitude de la Russie dans le contexte électoral est vue comme une attitude qui a perturbé le jeu démocratique.
Beaucoup de questions de courriel concernant la personnalité tout à fait particulière, hein, de Donald Trump. Grégory Phillips, notre correspondant permanent à Washington, nous a rejoint dans ses studios, là-bas dans la capitale fédérale. Bonsoir Grégory, je vous lis ce courriel et vous essayez d'y répondre. Est-ce que Trump ne surjoue pas le personnage imprévisible, instable psychologiquement, alors qu'en fait il est beaucoup plus avisé qu'on ne le croit? Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, je ne suis pas dans la tête de Trump, mais c'est vrai qu'à la lecture de ces messages publiés sur Twitter le matin, souvent vers 6h, 6h30 du matin, vous avez une salve de messages et on est en droit d'essayer de comprendre. Est-ce que c'est irruptif comme réaction parce qu'il vient de voir quelque chose à la télévision, par exemple sur Fox News, ou est-ce que c'est une communication plus réfléchie? C'est vraiment compliqué de vous répondre. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand on va rencontrer les électeurs de Trump, eh bien, ils apprécient cette communication directe. il y a évidemment toute cette litanie autour des fake news dénoncées CNN, MSNBC et les grands réseaux télévisés. Et là, il y a une communication directe avec le président. Et quand on demande aux électeurs, mais par exemple, quand il insulte un journaliste ou un élu ou un dirigeant, qu'en pensez-vous? Oui, évidemment, il fait ça, mais c'est direct, il parle comme nous. Et sa communication sur Twitter notamment est appréciée par les gens qui votent pour lui.
Dominique Moïsi, je rappelle, un géopolitologue, conseiller spécial de l'Institut Montaigne, Donald Trump, à votre avis, est-ce qu'il en fait beaucoup? Est-ce qu'il le fait exprès? Vous me prenez pour un primaire? Très bien, je vais en rajouter, je vais jouer à ce jeu-là pour vous faire peur.
Les deux. Il surjoue ce qui lui est naturel. Et il y a un livre qui vient de sortir, qui fait un triomphe, c'est le livre de James Comey, l'ancien chef du FBI, qui a été chassé brutalement par le président Trump. Et il fait une comparaison intéressante qui fait mal à Trump. Il dit, il a un comportement de chef de mafia. Et donc à Washington, hier et aujourd'hui, on a eu la rencontre entre Jupiter et Don Corleone. Et c'est compliqué parce qu'il se situe dans des cas de figure très très différents. Il ne joue pas au même niveau, même si c'est une visite d'État, même s'il y a le caractère officiel. Comment bâtir une vraie communication avec un personnage aussi improbable que peut l'être Donald Trump?
Au standard à Angers, Julia est avec nous. Bonsoir Julia.
Bonsoir.
C'est à vous, vous êtes sur l'antenne.
Oui, en fait j'avais une réflexion à faire par rapport, moi je compare beaucoup Nicolas Sarkozy et Trump. Je trouve que les médias sont complètement inadaptés à ce genre de personnage, donc évidemment sont très surpris et sont évidemment contre. Parce que Trump ne fait pas partie de l'aristocratie américaine, telle les dynasties comme les Kennedy, les Bush, les Clinton, etc. Donc ça surprend beaucoup la France, qui est habituée, elle, de son côté, à prendre des présidents qui sortent de l'ENA et qui ont un parcours un petit peu, on dirait, aristocratique de ce côté-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de parallèles entre Nicolas Sarkozy et Trump. Il y a beaucoup de comportements similaires, hein. Et je pense que les médias ont un comportement similaire par rapport à Nicolas Sarkozy et par rapport à Trump. Parce que je pense que ce sont des hommes très logiques, contrairement à ce qu'on peut penser, et qui sont très déterminés dans leur politique.
Mais vous parlez des médias, qu'est-ce que vous leur reprochez par rapport à Trump?
Il n'y a pas de médias qui puissent dire du bien de Trump. Ils sont tous contre, comme on a été contre Nicolas Sarkozy. Quoi qu'il fasse, ce n'était pas... C'est-à-dire que c'était vraiment contre. Et ces gens, je pense, viennent du peuple. Quoi qu'on en pense, Trump a peut-être hérité, mais c'est quelqu'un qui vient du peuple. Il vient pas d'aristocratie, de politiciens aristocrates. Vous voyez ce que je veux dire? Comme les Bush et comme les Kennedy, comme les Roosevelt, etc. C'est quelqu'un qui vient du peuple. Et Nicolas Sarkozy aussi. C'est pas quelqu'un qui a fait l'ENA, c'est pas quelqu'un... Voilà.
Merci Julia sur ce commentaire de Julia, Thomas Gomard.
Avant le parallèle entre Donald Trump et Nicolas Sarkozy, une remarque sur Emmanuel Macron et Donald Trump sont tous deux des héritiers mais très différents. C'est-à-dire qu'effectivement Donald Trump n'appartient pas à une grande dynastie, mais enfin il a hérité très tôt d'une fortune lui permettant de financer ses différentes facéties. Et je pense que, comme on dit souvent aux États-Unis en riant, le million le plus difficile c'est le premier, et il l'a eu très tôt. Bon. Et donc c'est un héritier économique, alors que Emmanuel Macron est un héritier, pour parler comme Bourdieu, culturel. Et c'est vrai qu'il y a là un décalage de style très frappant entre les deux hommes. Maintenant, sur la remarque de votre auditrice consistant à dire que les médias étaient contre Nicolas Sarkozy, je pense que c'est une remarque qui mériterait une lecture plus précise, parce que je crois qu'il y a, dans les deux cas de figure, il y a eu au contraire un investissement très fort, à la fois chez Donald Trump dans son côté excessif, mais également chez Nicolas Sarkozy, pour avoir une communication et que tout acte soit un acte de communication. Et en ce sens, effectivement, il se retrouve, mais je ne dirais pas que les médias ont été contre Nicolas Sarkozy. Il y a eu des hauts et des bas, mais il y a eu quelques hauts au début.
Dominique Moïsi.
Dire que les médias sont contre Trump, c'est une simplification. Fox News est plutôt globalement très pro-Trump. Et vous avez un grand nombre de médias qui sont néo-conservateurs et qui soutiennent à fond le président. Et le décrire comme venu de nulle part, là je rejoins tout à fait ce qu'a dit Thomas Gomard, sur le plan économique, c'est un héritier. Celui qui est un ancêtre sur le plan économique, c'est Barack Obama. Il est venu réellement de nulle part, de la méritocratie.
Au standard, Denis dans l'Oise est avec nous. Bonsoir Denis, merci de nous écouter, de participer à notre émission.
Oui, merci de prendre mon appel. J'interviens sur les rapports assez ambigus de Macron et de Trump. Je prendrai l'exemple, par exemple, des frappes sur la Ghouta orientale. Ils ont décidé ensemble des bombardements sans but ni visée politique réelle, ciblant des objectifs flous en représailles d'un crime dont les auteurs n'ont pas été identifiés avec certitude. Voilà le bilan peu reluisant de l'opération militaire décidée par Donald Trump et Emmanuel Macron.
Ça, c'est vous qui le dites, hein, qu'on n'a pas...
Oui,
c'est votre opinion, on peut la discuter. Il y a des enquêtes qui ont été menées par les services spéciaux américains et français qui disent que le régime Assad a utilisé des armes chimiques. Mais poursuivez.
Mais si vous voulez, dans la continuité de mon idée, la question suivante... Depuis le retrait de Trump lors des accords de Paris, est-ce qu'il a cédé sur un point précis aux injonctions de Macron, que ça concerne l'écologie ou bien l'Iran? Finalement, on s'aperçoit que Macron est plutôt utilisé comme une sorte de joker, un joker d'un homme politique d'État occidental, par Macron qui est un expert finalement en communication. Et on s'aperçoit que finalement, il ne cède à rien aux injonctions de Macron dans les domaines que je viens de citer.
Alors, on va vous répondre, Dominique Moïsi. D'ailleurs, si on fait le bilan de cette visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis, c'est vrai, est-ce qu'il a réussi à faire bouger les lignes, à modifier l'opinion de Donald Trump?
En cette fin de séjour et à la veille d'une soirée de football, je dirais le score est un partout. La journée d'hier a été plutôt favorable à Donald Trump, qui a montré qu'il ne cédait en rien sur l'Iran, contrairement à ce que pouvait espérer la diplomatie française. Mais la journée d'aujourd'hui a été très favorable à la France. Donald Trump, le Congrès, ont fourni une tribune au président de la République française. Il l'a utilisée pleinement et de manière brillante pour se faire l'avocat du multilatéralisme, de l'internationalisme, de l'universalisme. Au fond, il est devenu l'incarnation de la diplomatie, de la démocratie classique. C'est moi. Et il l'a dit avec un ton américain, volontariste, positif, optimiste. C'est pas mal. Donald Trump a fait un cadeau extraordinaire. Il a permis à Emmanuel Macron de critiquer de manière systématique, sans jamais le citer, sa politique.
Grégory Phillips à Washington.
Oui, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que devant le Congrès, quand Emmanuel Macron a parlé climat, multilatéralisme, sur le plan politique intérieur américain, on a vu les élus démocrates l'applaudir à tout rompre, tandis que les républicains faisaient plutôt grise mine. Et puis, si je suis arrivé un peu en retard dans l'émission, c'est parce que à la sortie du Congrès, Emmanuel Macron s'est rendu au mémorial de Martin Luther King, où il a rencontré, la visite n'était pas prévue au programme, le représentant John Lewis, qui est un combattant historique des droits civiques aux États-Unis, un compagnon de route de Martin Luther King, l'un des marcheurs de Selma. Et ce que nous a dit le président français, c'est Martin Luther King, John Lewis, c'est ça aussi l'Amérique. Donc aujourd'hui, il y avait aussi la volonté de s'adresser à peut-être un autre pan de l'Amérique, en tout cas celle qui ne vote pas Trump. Le représentant Lewis, par exemple, est un critique très féroce de l'administration Trump depuis qu'elle était au pouvoir.
Mais cela étant, concrètement, à la suite de cette visite, pour l'instant, Donald Trump est toujours en retrait sur le traité sur le climat signé à Paris. La Syrie, il veut retirer ses troupes alors que Emmanuel Macron dit non, il faut rester sur place, sinon le régime Assad va prendre de l'ampleur et peut provoquer une nouvelle guerre. L'Iran, bon ben là, clairement, Donald Trump a dit je ne veux pas de cet accord. Ça reste ambigu, il envisage peut-être des compléments, des traités qui pourraient améliorer ce traité initial de 2015 avec l'Iran. Et sur les droits de douane, là aussi, pour l'instant, semble-t-il, il semble déterminé, Thomas Gomard.
Oui, moi, dans le prolongement de la question, de l'observation de Denis, votre auditeur, je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron se caractérise par un style, par des discours très construits, souvent très brillants, mais qu'arrive maintenant le moment de la traduction de ces discours en actes. Et là, il se heurte, je dirais, au roc Trump, qui, à mes yeux, n'a pas cédé grand-chose. Et comme on le disait, on ne s'attend pas à un changement de pied de Donald Trump sur l'Iran. Je pense qu'il y a un autre dossier qui préoccupe au plus haut point Emmanuel Macron et les autorités françaises, c'est la crainte de voir les États-Unis arrêter les frappes en Syrie et de voir au fond une situation en Syrie qui se caractériserait par un regain d'activité de Daesh. Mmh. Au fond que les États-Unis délaissent le front syrien, délaissent les Kurdes et laissent la situation avec une résurgence tout à fait possible et de manière rapide de l'État islamique. Ça, c'est une crainte très forte à Paris et je pense que c'est un des aspects de la discussion. C'est peut-être d'ailleurs là-dessus qu'Emmanuel Macron est susceptible, à mon avis, d'obtenir des résultats beaucoup plus que sur l'Iran.
Jacques, bonsoir Jacques. Vous êtes à Châlons.
Oui, bonsoir à tous. Je m'interrogeais un peu au travers des propos des différents intervenants et auditeurs. Finalement, entre un président, à savoir Macron, avec un discours politique cohérent, et un Trump parfois surprenant pour le moins, finalement, les marqueurs américains des financiers, des entreprises et des investisseurs sembleraient plus crédibles, paradoxalement. J'aurais été heureux d'entendre une réaction de vos intervenants.
Dominique Moïsi.
Bah, si on regarde l'évolution de la bourse tout dernièrement, elle démontre de fortes inquiétudes à l'égard de l'avenir immédiat de l'économie américaine. Les problèmes n'ont pas été réglés. Et alors c'est là où il y a cette contradiction de Donald Trump. Il dit « Nous dépensons beaucoup trop d'argent au Moyen-Orient, je vais retirer mes troupes de Syrie pour pouvoir construire des ponts et des autoroutes » aux États-Unis. Et là, encore une fois, il y a une forme de populisme nationaliste qui s'oppose aux intérêts même beaucoup d'Américains. C'est là où peut-être il y a une marge de manœuvre de Emmanuel Macron sur laquelle on n'a pas assez insisté. Je rejoins tout à fait Thomas Gomard sur le terrorisme. Il peut jouer de la peur commune de Washington et de Paris. Mais il y a l'aspect commerce. Les républicains, en fait, sont tout à fait opposés au protectionnisme qu'introduit président Trump. Donc là, il peut jouer, et il l'a fait au Congrès avec beaucoup d'habileté. Les républicains ont applaudi, tout comme les démocrates, les partie du discours sur le libre-échange et la fin des barrières douanières.
On a beaucoup de questions sur le site de l'émission Grégory Philips à propos du fameux mur entre les États-Unis et le Mexique. Ce mur, il est en construction ? C'est ce qu'on nous demande. Hein, si j'ai reçu plein de courriels à ce propos.
Non, pas encore. En fait, il y a des prototypes au sud de San Diego qui ont été mis en place pour faire des essais, si vous voulez, mais le chantier en lui-même n'est toujours pas lancé. Il y a évidemment une frontière assez forte avec des grillages assez hauts, etc. Mais le mur de Trump, le mur promis à ses électeurs, non, on n'a pas encore débuté.
Mais il a les crédits pour construire ce mur, Donald Trump, ou alors ça reste une promesse électorale qui n'ira pas très loin?
Ah ben vous savez que pendant la campagne, il promettait que ce seraient les Mexicains qui paieraient. Donc on en est loin encore. Et non, pour l'instant, les crédits n'ont pas été votés.
Thomas, dans les Yvelines, bonsoir.
Bonsoir.
C'est à vous.
Alors voilà, je me posais des questions sur la politique étrangère de Trump en général. C'est-à-dire qu'il a été élu comme sur un programme, je dirais, anti-interventionniste. Il a quand même beaucoup accusé Clinton pour les guerres qu'il a fait en Libye, en Irak, en Afghanistan. Il a fustigé l'OTAN et son coup général. Et finalement, au final, il a frappé deux fois la Syrie. Je pense qu'il nous a mené au bord d'une guerre nucléaire, mais il a beaucoup augmenté les tensions avec la Corée du Nord. Est-ce qu'il a seulement une politique à long terme pour les États-Unis et pour la planète, vu la puissance des États-Unis?
Thomas Gomard, est-ce que Trump improvise au fil des événements?
Moi, je suis partagé dans le sens où je considère qu'il y a un noyau rationnel sur un certain nombre de ces décisions. Et ce noyau rationnel, pardon, c'est l'unilatéralisme, cette idée sur laquelle, au fond, les États-Unis peuvent se permettre de se retrancher et d'avoir une attitude plus défensive. Et puis, effectivement, ensuite, une lecture plus, une attitude plus erratique, où on ne comprend pas bien le lien. Je donne un exemple. C'est-à-dire que comment on peut prétendre régler le dossier nord-coréen, le dossier nucléaire nord-coréen, tout en voulant mettre des sanctions supplémentaires sur l'accord du nucléaire iranien. Là, je vois une contradiction assez fondamentale, par exemple. La deuxième contradiction, elle est aussi dans le rapport avec les Européens, c'est-à-dire à la fois de dire aux Européens, vous devez dépenser plus pour votre défense, et en ce sens, peut-être qu'il envoie un message effectivement utile, tout en disant, effectivement, les États-Unis doivent rester aussi présents et donner le là. Voilà, ce type de contradiction me semble difficile à surmonter.
Mais sur le dossier de la Corée du Nord, est-ce que finalement les Américains qui ont voté pour Donald Trump, ils ne vont pas dire, ben voilà, il est formidable parce qu'il a menacé la Corée du Nord du feu nucléaire, attention, si vous continuez vos essais. Et puis là, on voit Kim Jong-un qui est prêt à dialoguer avec Donald Trump. Pour les Américains, ils peuvent se dire, ben voilà, oui. en parlant fort, comme le fait Trump, ça impressionne et ça permet de faire bouger les choses.
Oui, mais là, on peut dire... de la relation entre le président américain et le président nord-coréen, un peu ce qu'on peut dire de la relation entre le président français et le président américain. Le président américain n'a pas fait du tout bouger les lignes. Le président nord-coréen accepte d'arrêter pour le moment ses essais, mais il n'en a plus besoin. Il a gagné pour l'essentiel une forme de légitimité internationale que lui accorde Washington en le voyant. Il est ravi. Et puis demain, ce qui se passera demain, il ne s'est engagé à rien.
Thomas Gomard.
Un mot sur la Corée du Nord. Ça a des effets dévastateurs sur le système d'alliance des États-Unis. C'est-à-dire qu'un pays comme le Japon observe ça avec stupéfaction.
Mais s'il y a une rencontre, ça fera une photo historique qui restera dans les livres d'histoire. C'est bon pour Trump.
Oui, probablement. C'est bon pour Trump en termes de communication. C'est peut-être moins bon pour la stabilité régionale.
Merci à nos invités au téléphone sonne ce soir. Thomas Gomard, Dominique Moisy et bien sûr Grégory Phillips, notre correspondant permanent à Washington. À demain.